La chasse au canard sur la lagune.
Huile sur panneau, 63 par 75, 1490. La rencontre des fiancés et le départ en pèlerinage.
Huile sur toile, 280 par 611, 1495. Le martyr et les funérailles de la sainte.
Huile sur toile, 271 par 561. Sainte Vénéranda.
Huile sur panneau, 55 par 44, 1500.
Une vie, une œuvre. Vittore Carpaccio, autour de 1460-1525. Par Simone Dweck, réalisation Brigitte Bouvier.
Carpaccio, qui était le peintre auquel, quand je ne travaillais pas à Saint-Marc, nous rendions le plus volontiers visite, faillit un jour ranimer mon amour pour Albertine. Je voyais pour la première fois le patriarche di Grado exorcisant un possédé. Je regardais l'admirable ciel incarnat et violet sur lequel se détachent ces hautes cheminées incrustées, dont la forme évasée et le rouge épanouissement de tulipes fait penser à tant de Venise de Whistler. Puis, mes yeux allaient du vieux Rialto en bois à ce Ponte Vecchio du XVe siècle, au palais de marbre orné de chapiteaux dorés, revenaient au canal, où les barques sont menées par des adolescents en veste rose, en toque surmontée d'aigrettes, semblables à s'y méprendre à telle qui évoquait vraiment Carpaccio dans cette éblouissante légende de Joseph de Sert, Strauss et Kessler. Enfin, avant de quitter le tableau, mes yeux revinrent à la rive où fourmillent les scènes de la vie vénitienne de l'époque. Je regardais le barbier essuyer son rasoir, le nègre portant son tonneau, les conversations des musulmans, des nobles seigneurs vénitiens en large brocart, en damas, en toque de velours cerise.
S'il a aujourd'hui une aussi grande, il exerce aujourd'hui une aussi grande attirance, ce n'est pas un hasard. C'est vrai que pour ses plus grands chefs-d'œuvre, il a, pour la sensibilité moderne, déjà pour Ruskin d'ailleurs, cette façon d'éveiller en quelque sorte un monde qui est à la fois terriblement présent, terriblement réel d'une certaine façon, et en même temps aussi qui nous emporte dans un univers imaginaire, embelli, avec donc ces espèces de fonds de... les fonds de ces peintures, ces grandes architectures, à la fois inspirées par le théâtre et puis aussi par les gravures de voyages exotiques qu'il a pu découvrir, qui recomposent donc une sorte de Venise imaginaire, et par là même, à la fois très présente, en même temps très rêvée, qui pour cela même donc peut exercer une sorte de fascination. Donc je crois que c'est une des choses qui peut expliquer notre intérêt pour lui. D'autre part, pour la sensibilité moderne, et ça c'est Longhi qui l'a bien noté, il y a aussi chez lui une sorte de... d'approche de la lumière, des ombres très géométriques, presque abstraites quelquefois, qui est elle aussi terriblement séductrice. Et Longhi, Roberto Longhi, le grand historien de l'art italien, le rapprochait pour cela d'autres artistes du Quattrocento qui pouvaient nous fasciner, parce que là aussi il préludiait à certains aspects de la sensibilité moderne, comme Piero della Francesca.
On a cru reconnaître la vie de Venise à la fin du XVe siècle, dans cet art si joyeux, si élégant, si gracieux. Il y a incontestablement, dans la redécouverte de Venise, cette volonté de comprendre ce qu'était cette vie vénitienne. Et on a eu le sentiment, sans doute un peu injustifié, de voir d'excellentes photographies de cette vie vénitienne dans l'œuvre de Carpaccio. Ce qui est vrai, et ça on oublie aujourd'hui, pour qui se rend à Venise régulièrement, ce qui est mon cas, ce qui est vrai, c'est qu'on a du mal à comprendre ce qu'était Venise au XVe siècle, c'est-à-dire une extraordinaire puissance, une puissance maritime extraordinaire. Il y a un poème que je ne connais hélas pas par cœur, mais qui est admirable, de Joachim du Bellay, sur justement cette Venise qui impressionnait les voyageurs, parce que c'était vraiment... Aujourd'hui, à force de parler de la décadence de Venise, qui est ancienne et qui continue, on oublie cet extraordinaire moment dont justement les toiles de Carpaccio sont un peu le reflet, d'une grande puissance, une grande puissance maritime, une grande puissance économique, et une ville à la mode, une ville de la mode, une ville convaincue de son hégémonie et qui n'a pas honte à s'afficher. Ça, on le sent bien à travers ces tableaux. Et au fond, c'est une vision qui est nécessaire, celle-là, pour contrebalancer celle de Canaletto ou de Guardi, ou qui sont des peintres merveilleux, bien entendu, d'immenses artistes, mais qui sont des témoins d'une ville déjà en complète décadence, et qui sont des témoins de l'architecture d'une ville plus que de la vie d'une ville. Donc, si vous voulez, je crois qu'à cet égard, pour comprendre ce qu'a été cette grande puissance économique, les tableaux de Carpaccio sont fort utiles.
C'est sans doute par John Ruskin que Marcel Proust hérite, dans son imaginaire littéraire, de Carpaccio. Et Théophile Gautier, dans son voyage en Italie, lui prête le charme idéal, la sveltesse adolescente de Raphaël. Le peintre, redécouvert, a touché la sensibilité du XIXe siècle et n'a cessé de traverser nos mémoires et nos paysages intérieurs, comme avec l'évidence de retrouver des lieux familiers de nos souvenirs. Sont-ils ceux d'une peinture ? Où sont-ils ceux d'une ville ? Car ce n'est pas Vasari, biographe au XVIe siècle, qui nous décrit le Carpaccio du rêve. Il voit un maître consciencieux se tirant avec habileté et grand art d'entreprises difficiles. Sans cette animation qui parfois enflamme ses textes et le fait sans réserve admirer un artiste, Venise est loin de son regard toscan. S'ennuyait-il secrètement, comme certains aujourd'hui l'avouent, à la vue de ces longs cycles narratifs racontant la vie des saints? Pensait-il au grand Bellini ou à Giorgione et à Titien, son fougueux successeur? Le croyait-il trop pris entre deux mondes, deux moments forts de la peinture, installés comme il l'était entre deux siècles? Cet artiste officiel, dont l'évolution ne connut pas l'apothéose, au point que sa vie se termina en Dalmatie, dans des marchés de second plan, parce que Venise ne l'honorait plus d'aucune commande? Mais c'est pour tout cela peut-être qu'il mérite attention, pour ces choses mêlées qui allient l'excellence aux faiblesses de style. Trouver l'art de Carpaccio, c'est se rappeler que la science extrême qu'il utilise en savant ne se dissocie pas du charme en goût pour l'anecdote, et c'est ainsi que Marcelin Plenet l'entend, lui qui habite ses tableaux comme il habite Venise, de pont en place, de palais en canal.
Carpaccio a cette particularité qui en fait en effet un peintre très important de cette époque charnière, cette particularité de présenter à la fois de grandes séries de cycles religieux destinés à des scolas tout à fait officiels et des tableaux intimes. Et même dans des tableaux qui illustrent des événements mythiques de Venise, comme dans le miracle de la croix, où l'on voit... et là c'est un des rares tableaux où l'on peut voir le pont du Rialto tel qu'il était avant d'être devenu ce pont de Renaissance en pierre. Donc on voit le pont en bois. Mais ce que l'on voit aussi, et ce dont il ne fait pas l'économie, en dehors de la scène qui fixe le miracle des vestiges de la croix, qui est à gauche en haut du tableau, ce que l'on voit, c'est la vie de Venise telle qu'elle est encore aujourd'hui, d'une certaine façon. C'est cela qui est très très merveilleux, qui fascine dans la peinture de Carpaccio, c'est que lorsqu'on a regardé ce miracle des vestiges de la croix, et que l'on sort à Venise, et que l'on arrive au Rialto, on s'aperçoit que la vie n'est pas tellement changée. C'est-à-dire qu'il représente à la fois les bourgeois et les patriciens qui se promènent sur le quai, mais qu'il représente aussi les gens qui y travaillent. Il est tellement lié à cette vie, à la fois officielle et intime de Venise, que, par exemple, on va voir sur le toit des ouvriers qui sont en train de réparer le toit et qui sont en train de changer des tuiles. On va voir des vénitiennes en train de secouer et de mettre leur tapis à la fenêtre. Donc, on a dans ce tableau tout à fait exceptionnel, on a à la fois la représentation d'un événement mythique dans Venise, c'est-à-dire un miracle produit par les reliques de la croix, accordée par la religion et par la croyance à la ville de Venise, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, en effet, de transcendant dans la ville de Venise, et en même temps, la réalité et la vie très intime de la ville.
Michel Hochmann, quand on travaille sur les grandes époques de peinture que représentent le 15e et le 16e siècle en Italie, entre Rome et Venise, on passe obligatoirement par Carpaccio.
Oui, Carpaccio est effectivement pour nous aujourd'hui l'un des protagonistes essentiels de la peinture vénitienne de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Toutefois, il faut bien voir que ce statut privilégié qu'il occupe aujourd'hui à nos yeux est relativement une redécouverte récente, puisque c'est finalement Ruskin au XIXe siècle qui lui a accordé cette place privilégiée et qui a ensuite fait que beaucoup d'écrivains, beaucoup d'amateurs se sont précipités à Venise pour voir ses œuvres, à commencer bien sûr par Marcel Proust. Mais si on se replace Carpaccio plus généralement dans le panorama du 15e et du 16e à Venise, sa position était sans doute relativement plus secondaire, si je puis dire, dans la mesure où il appartient à une génération un peu intermédiaire entre la grande génération de Giovanni Bellini et la génération qui va révolutionner complètement la peinture au début du 16e siècle, c'est-à-dire celle de Giorgione et de Titien. Également, si on observe le cercle de ses commanditaires, on s'aperçoit qu'en fait, il a rarement travaillé pour les commanditaires les plus prestigieux, c'est-à-dire la République elle-même. Il n'a été associé au décor du Palais Ducal que dans les années 1505-1506 et à une seule occasion. Il n'a peint qu'une toile pour les plus grandes confréries de la ville, pour l'une des plus grandes confréries de la ville, c'est-à-dire la Scuola de San Giovanni Evangelista. Et le reste du temps, il peint en fait essentiellement pour ce qu'on appelle les Scuole Piccole à Venise, c'est-à-dire de petites confréries, comme celle des Esclavons, bien sûr, avec le célèbre cycle que tout le monde connaît lorsqu'il va à Venise, ou l'autre cycle très célèbre qui est la Scuola de Saint-Ursule, mais aussi une autre petite confrérie qui se trouvait à San Giovanni e Paolo, dans l'église de San Giovanni e Paolo, et dont les toiles sont maintenant conservées à l'Académie. Il a par ailleurs sans doute été en contact avec quelques commanditaires importants. On suppose quelquefois que le très beau portrait de chevalier qui se trouve aujourd'hui à la collection Thyssen à Madrid représente un important personnage qui est donc le duc della Rovere, futur duc d'Urbain. On sait également qu'il a été en contact avec les Gonzagues de Mantoue, mais enfin on a l'impression quand même qu'il a été, encore une fois, un peintre qui a plutôt travaillé pour des petites confréries et non pas pour les cercles les plus prestigieux de la ville. Et il faut bien voir quand même que la place la plus importante était évidemment occupée à l'époque par Giovanni Bellini.
On ne sait pas vraiment dans quel atelier vraiment il a commencé à travailler, mais on sait qu'il est très très associé aux ateliers des Bellini, c'est-à-dire aussi bien le père que Gentile, que Giovanni. Les Bellini vont lui confier à plusieurs reprises des tâches relativement importantes. Par exemple, c'est lui qui va être chargé d'établir ce qu'il en est des fresques de Giorgione de la Fondation dei Tedeschi. Donc il a des grosses responsabilités et il est en effet très vite un peintre officiel de Venise. On peut se demander d'ailleurs pourquoi lui. Et c'est répondre à cette question, c'est en effet déjà éclairer l'œuvre de Carpaccio et sa situation. En effet, il y a une identification très profonde, à mon avis, de Carpaccio avec Venise, une identification beaucoup plus grande que celle que l'on peut faire avec aucun des Bellini, et beaucoup plus grande que l'on peut faire avec ce qui va suivre, c'est-à-dire avec les Giorgionesques et avec Titien.
la grande invention de Carpaccio, c'est la décoration.
Vittorio Sgarbi.
Au contraire du fresque, les fresques à Venise ont le problème de l'humidité. Alors, il a inventé les teleri, qui sont des grands tableaux sur toile qui ont la résistance à l'humidité et sur lesquels il fait des histoires comme le cinéma pour les écoles de Venise, qui ne sont pas les écoles pour les étudiants, mais les écoles sont des lieux pour la réunion des hommes, des communautés, des étrangers, les Albanaises, les Slovènes, qui ont les liés, les clubs des rencontres pour les questions générales des rapports avec la République vénitienne dans cette école. Et à premier étage, il y a des salles avec de grandes décorations qui ne sont pas fresques, mais en toile.
L'œuvre de Carpaccio est liée à Venise d'une façon tout à fait singulière, mais on le comprend beaucoup mieux si l'on tient compte de ce qu'est l'Italie à l'époque. L'Italie est une série de principautés, de provinces et, pour Venise, d'une république. Et chacun de ces états italiens entretient une sorte de passion et de nationalisme interne. Et je pense que dans cet ordre de choses, eh bien Carpaccio est le plus représentatif, en effet, pour Venise. En versant au comte de Venise un ensemble d'éléments qui sont évidemment très très importants, Venise est en quelque sorte pour Carpaccio la cité par excellence. En versant au comte de Venise, par exemple, les grandes légendes quasi moyenâgeuses, c'est-à-dire tout le cycle de Jacques de Voravagine, c'est-à-dire toute l'histoire du christianisme à travers la vie des saints qui constitue ce cycle. Donc il y a ce premier élément-là. Il y a le second élément qui fait que lorsqu'il interprète une de ces légendes, eh bien c'est en effet la ville de Venise qui est mise en scène. Dans la vie de Sainte-Ursule, c'est la vie de Venise, ce sont les costumes de la fin du 15e et du début du 16e, absolument. Si l'on regarde, par exemple, notamment la vie de Sainte-Ursule, on s'aperçoit que le Venise que présente Carpaccio n'est pas très différent du Venise qu'on présente aujourd'hui. Et il se passe dans ces campos ce qui se passe aujourd'hui. Et n'importe quel touriste qui se promène à Venise aujourd'hui s'aperçoit qu'à partir de 6 heures du soir, les Vénitiens sont dans les campos et discutent exactement de la même façon que les Vénitiens de la fin du 15e discutaient dans les œuvres de Carpaccio. Donc il y a vraiment une représentation de Venise qui est tout à fait exceptionnelle.
Au marquis Francesco Gonzaga. Illustrissime Seigneur, ces jours derniers, un homme inconnu de moi m'a été amené par quelques personnes pour voir une Jérusalem que j'avais faite. Dès qu'il l'a vue, il a aussitôt commencé à insister pour que je la lui vende, car il l'estimait une chose tout à fait à son gré et le satisfaisant extrêmement. Le marché, enfin conclu sur parole, il n'a plus jamais reparu. Moi, alors, pour éclaircir la chose, je me suis renseigné auprès de ceux qui l'avaient conduit chez moi, parmi lesquels se trouvait un prêtre barbu, coiffé d'un bonnet gris, que j'ai souvent vu avec votre seigneurie dans la grande salle du conseil. Et je demandai le nom de celui-ci et sa condition. Ils me dirent que c'était Maître Laurentio, peintre de votre seigneurie. J'ai alors facilement compris où celui-ci voulait en arriver. Et ainsi, il m'a semblé bon d'adresser la présente à votre sublimité pour lui en faire connaître tant mon nom que mon œuvre. Primo, illustre Monseigneur, je suis ce peintre de l'excellent Conseil des Dix, chargé de peindre dans la grande salle où votre seigneurie a daigné monter sur l'échafaudage pour voir notre œuvre, qui est l'histoire d'Ancône. Et je suis nommé Vittore Carpaccio. Quant à ma Jérusalem, j'ose dire que de notre temps, elle n'a pas sa pareille en qualité, en parfaite exactitude ainsi qu'en grandeur. Elle a 25 pieds en longueur et 5 pieds et demi en largeur, avec le respect de toutes les proportions exigées dans ce genre d'œuvre. Je sais d'ailleurs que Zoané Zamberti a parlé de la chose à votre seigneurie. Je sais aussi en toute certitude que votre susdit maître Laurentio a présenté à votre seigneurie, comme étant de son invention, un morceau de cette œuvre en proportion réduite. Ce morceau, je l'ai vu, et je suis même absolument certain qu'il ne sera pas du goût de votre seigneurie, car il n'y a pas le dixième de ce qu'il y a dans le mien. Si par contre le mien avait l'agrément de votre seigneurie, qui pourrait le faire voir à des hommes ayant du jugement et qui aient été sur les lieux à Jérusalem, que votre seigneurie m'en dise le moindre mot et le tableau lui sera réservé. Il est peint à l'aquarella sur toile et pourrait donc être roulé sur un rouleau sans aucun dommage. S'il plaît à votre seigneurie qu'elle soit coloriée, ce sera à votre seigneurie de commander et à moi d'exécuter. Du prix, je ne dis rien ni n'en veux rien dire, sauf que je m'en remets à votre seigneurie, à qui je me recommande humblement. Le 15 août 1511, Venise. J'ai envoyé la copie de cette lettre par un autre moyen afin d'en assurer la réception. De votre sublimité reste le serviteur, Vittore Carpaccio, peintre.
Alors, vous parlez d'une Venise imaginaire, Michel Hochmann. Qu'est-ce qui est imaginaire, finalement, dans sa Venise? Parce qu'en même temps, chez Carpaccio, il y a ce tel souci du détail qu'on se demande comment on bascule. Et pourtant, c'est vrai.
Oui, mais ce sont des détails entièrement recomposés. C'est-à-dire que même dans la vision du Grand Canal qu'il nous propose pour le miracle de la Sainte-Croix à l'Académie, il rajoute un certain nombre. Alors certes, on voit le Rialto tel qu'il était à son époque, mais il rajoute aussi un ensemble de personnages qu'il groupe là dans des costumes fastueux, qui certes sont des personnages qu'il a pu observer dans la rue, mais qu'il groupe d'une façon telle, avec une espèce d'accumulation, que... On a atteint justement une dimension presque onirique de la vision qui n'a rien à voir probablement avec une dimension naturaliste comme on pourrait la trouver par exemple chez Canaletto bien des siècles plus tard. D'autre part, les autres scènes qu'il a pu représenter, comme justement dans la légende de Sainte-Ursule ou de la Scola d'Elis Chiavone, ils ne sont pas censés se passer à Venise. Ce sont des scènes qui sont censées se passer dans des lieux très exotiques. Et donc, il plaque en quelque sorte une Venise embellie pour représenter l'ailleurs. Et il y glisse d'ailleurs des modèles qui s'inspirent des stampes de récits de voyage ou de dessins qu'on a pu faire par exemple à Jérusalem pour en faire une sorte de résumé du monde en quelque sorte qui va bien au-delà de la simple observation du réel.
Il dit toujours dans la signature sur le tableau pas Vittore Carpaccio pinxit, ma il écrit Vittore Carpaccio finxit.
Oui,
c'était la finition, c'était la représentation, c'était la duplicité de la réalité. C'est pas réalisme, c'est la finition, c'est le théâtre. Le théâtre, oui. Et théâtre, il y a des architectures qui sont les architectures vénitiennes à l'intérieur et à l'extérieur, Palais Dario, mais il a surtout des architectures orientales. Et je crois qu'il n'était jamais été à Constantinople ou dans les lieux d'Orient. Il a
On s'est demandé soigné. S'il y était allé parfois.
Je crois que non. Je crois qu'il a fait l'invention de l'Orient qu'il a imaginé.
Et c'est vrai que, comme vous dites, finxit, ce mot de finxit, fingere en latin, ça veut dire en fait façonner en déguisant et imaginer en fait, et feindre.
Et il a fait, l'architecte, le scénographe, le metteur en scène, et il a fait aussi les costumes. Il y a des personnages de Carpaccio qui sont pour un récit théâtral extraordinaire. C'est quoi pas comme dans la réalité. Ils sont des costumes comme un grand artiste d'aujourd'hui. Il a inventé toute la représentation et tous les costumes de ces personnages.
On a, pour associer Carpaccio Carpaccio à Venise, eh bien, il y a un historien italien qui s'appelle Zorzi et qui a consacré un très gros volume à l'œuvre de Carpaccio à partir d'études sur la scénographie et sur le théâtre. Ce qui est tout à fait passionnant et intéressant, d'autant qu'il le fait avec, en effet, avec une érudition très 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 grande. Mais prenez Venise en elle-même. Venise est une ville scénographique, c'est un théâtre. C'est-à-dire que vous débouchez sur un campi, vous débouchez sur une place et vous sortez d'une rue qui est sombre, vous arrivez dans la lumière et vous entrez comme sur une scène. Et si vous regardez le cycle où en effet Carpaccio utilise le davantage Venise, c'est-à-dire le grand cycle de la vie de Sainte-Ursule, eh bien vous vous apercevez en effet que vous êtes là aussi sur un théâtre et sur une scène et que la façon dont il place les personnages, notamment je crois que c'est dans le Retour des ambassadeurs où à gauche, on a trois jeunes gens qui prennent des poses un peu maniérées. Si vous regardez ces trois jeunes nobles vénitiens qui se tiennent là un peu à l'écart de la scène et qui posent, eh bien, vous apercevez que vous allez trouver la même chose avec les jeunes gens à Venise aujourd'hui. C'est-à-dire que à partir du moment où le vénitien entre sur un campo, entre sur une place, eh bien, il est en représentation. Et c'est même très difficile, même pour quelqu'un qui n'est pas vénitien, d'arriver sur une de ces places et de ne pas se sentir immédiatement regardé de toutes parts, c'est-à-dire comme sur une scène de théâtre. Donc c'est à la fois la vie intime et privée des petites gens, et vous avez d'autre part la vie officielle de Venise à travers une série de grands cycles, de grandes légendes que Venise s'approprie et convertit, des légendes qui sont des légendes moyenâgeuses, et que Venise convertit à la Renaissance à travers l'œuvre de Carpaccio.
Alors, il y a aussi, on a l'impression, je ne sais pas si vous serez d'accord, Marcelin Plenet, mais il y a aussi une notion de ville rêvée. Il y a cette Venise qu'il connaît intimement, comme vous le dites, mais il y a aussi un peu cette notion de cité idéale. Parce que c'est vrai que, par exemple, pour reprendre la légende de Sainte-Ursule, on se trouve normalement en Angleterre, parfois on se trouve en Bretagne, on se trouve à Cologne. Bon, mais pourtant...
C'est toujours Venise. C'est toujours Venise où on voit en effet l'arsenal, on voit la place. Et en effet, les légendes moyenâgeuses, qu'il s'agisse de la vie de Sainte-Ursule, ou qu'il s'agisse de la légende de Saint-Étienne, qu'il s'agisse de la légende de Saint-Jérôme, ou de la légende de Saint-Georges, Carpaccio les porte au crédit de Venise. C'est cela. Alors, la ville idéale, qui bien entendu est liée historiquement à l'œuvre de Piero della Francesca et au savoir sur la perspective de ce grand savant qu'est Luca Paraccioli, la ville idéale, c'est évidemment Venise. Venise est à la fois la ville des légendes, la ville de l'intimité et la ville idéale. Elle devient la ville idéale et c'est là où la place de Carpaccio est tout à fait importante et singulière. Elle devient la ville idéale en assumant de façon contemporaine, c'est-à-dire propre au XVe siècle, en assumant les légendes moyenâgeuses, en assumant la peinture qu'on appelait à l'époque le gothique international, à la Renaissance. Et ça, c'est le propre de Carpaccio. C'est vraiment le propre de Carpaccio. Ensuite, la Renaissance sera une Renaissance spécifiquement vénitienne, à travers le cardinal Membo, à travers la cour de Caterina Cornaro, le Giorgionisme est titien. Mais là, on est à un moment charnière. Et ça n'est pas surprenant du tout que Carpaccio accomplisse ce rôle, parce que ce moment charnière est aussi un moment de grande activité architecturale et picturale et de grande commande dans Venise.
Rien de plus frappant que les 8 tableaux de Carpaccio sur Sainte-Ursule. Tout y est. Et d'abord, la maladresse de l'imagier féodal. Il ignore la moitié du paysage, et le nu. Ses rochers hérissés d'arbres semblent sortir d'un psautier. Maintes fois, ces arbres sont en tôle vernie et découpés. Ces 10 000 martyrs, crucifiés sur une montagne, sont grotesques comme les figures d'un vieux mystère. On voit qu'il n'a pas vécu à Florence. Qu'il n'a point étudié les objets naturels avec Paolo Uccello, les membres et les muscles humains avec Pollaiolo. D'autre part, on trouve chez lui les plus chastes figures du Moyen-Âge, et cet extrême fini, cette sincérité parfaite, cette fleur de conscience chrétienne que l'âge suivant, plus sensuel et plus rude, va fouler dans ses emportements. La sainte et son fiancé, sous leurs grands cheveux blonds tombants, sont graves et touchants comme des personnages de légende. Hippolyte Taine voyage en Italie.
Il faut bien voir que les grands cycles sont des cycles de récits. Ça n'est pas un peintre de la picturalité vénitienne, c'est un peintre du récit de la storia, qui raconte une histoire, d'où son charme aujourd'hui d'ailleurs. Et est-ce que c'est un archaïsme? Je crois au contraire, on peut le percevoir comme un archaïsme, mais on peut aussi le percevoir comme une qualité spécifique de conteur qui sait donner du charme à ce qui n'en aurait pas forcément si la légende qu'il raconte était simplement perçue comme dogme académique et officiel. C'est vécu de l'intérieur et quels que soient les tableaux qu'il réalise, en tous les cas pour les grands cycles, c'est toujours accompagné d'un charme anecdotique qui les rend vivants et présents.
Alors, compter par la peinture, ça veut dire quoi pour Carpaccio?
Ça veut dire avoir un récit. On commence par le début du récit. Par exemple, une princesse de Bretagne, c'est-à-dire catholique, va être demandée en mariage par un prince d'Angleterre, c'est-à-dire non catholique. Donc, c'est le début. Voilà une histoire de deux jeunes gens qui doivent se marier et qui rencontrent une difficulté, comme l'histoire de la littérature et l'histoire des hommes en rencontre des quantités. La princesse, qui semble être une jeune fille qui a du caractère, accepte cette demande en mariage sous deux conditions. Vous voyez, on entre dans une légende qu'on pourrait presque raconter aux enfants sur deux conditions. Il faut bien entendu que le jeune homme se convertisse et il faut que le couple, avant de se trouver effectivement marié, se rendent à Rome pour se faire bénir par le pape et soient accompagnés de 1000 vierges. 1000 vierges, ça fait beaucoup, hein.
On les voit d'ailleurs. Hein.
Absolument. Je ne les ai jamais comptées, je ne crois pas qu'elles y soient toutes, mais en effet, elles sont très très nombreuses. Elles sont très très nombreuses. Bien entendu, à partir du chiffre de 1000 vierges, on s'aperçoit qu'on est dans un récit qui n'est plus tout à fait réaliste, qui est un peu légendaire. Et en effet, c'est au cours de ce voyage que la jeune fiancée, dans une chambre qui est rendue par Carpaccio avec une rigueur scientifique qui fait qu'on la compare même, de certains historiens, la compare aux boîtes noires de la perspective qui permettaient aux peintres de suivre les règles de la perspective. Donc on entre dans une chambre Renaissance très très stricte, elle dort et en rêve, un ange lui annonce qu'elle va être martyre. Le peintre illustre les diverses étapes de cette légende, comme s'il réécrivait la légende.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peintre que l'on dirait littéraire. Il veut organiser la peinture pour qu'on la voit comme une durée narrative.
Jean Roudeau.
Et c'est ça qui, littérairement, m'intéressait beaucoup. C'est un conte, c'est un conteur. Et avec des reprises d'éléments plus anciens, d'allégories médiévales même, par exemple, dans le choix des animaux représentés. Et donc, c'est un véritable discours qu'il nous propose, mais un discours construit picturalement, organisé picturalement.
Alors, comment fait-il pour utiliser la couleur, la peinture, et pour en faire un récit?
Je crois que le plus évident, c'est son usage de la perspective. Il la creuse, et dans cette perspective, il va installer les personnages de son récit, qui le reprend à Voragine, et il va surtout les accompagner de détails. Et ça, c'est assez curieux. Vous savez, cet auteur de romans policiers qui s'appelle Ed McBain, et qui adore donner dans ses romans policiers une masse de détails totalement inutiles à l'intrigue. Et il y a un peu de ça dans Carpaccio. Ce qu'il aime, c'est montrer le dispersé de la nature, du monde, dans une organisation qui est celle que permet la perspective. Et la perspective lui permet alors, narrativement, de faire cohabiter des scènes différentes. Des scènes différentes dans l'aventure d'Ursule, mais différentes aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a, sur la toile, des éléments qui ne se passent pas en même temps. Mmh. N'est-ce pas ? Certains qui sont des annonces, d'autres qui sont des remémorations. C'est assez fréquent dans la peinture qu'il y ait comme ça des éléments qui n'appartiennent pas aux mêmes époques, aux mêmes périodes du récit.
Il joue effectivement sur le temps, mais dans la même toile.
Oui, dans l'arrivée des ambassadeurs chez le roi de Bretagne, nous avons sur la toile des moments qui ne se sont pas passés au même instant. C'est presque, pour simplifier très grandement, presque cinématographique. Vous voyez, on peut suivre leur arrivée, leur présentation, la préparation de la réponse qui va leur être faite, etc. Voilà. Ce sont comme des éléments un peu comme nous l'avons, par exemple, pour la tapisserie de Bayeux, vous voyez, où nous avons une suite narrative.